Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, il est 20h15, c'est Franck donc avec vous pour la troisième partie de cette émission de Voyage à travers les étoiles, consacrée donc entre autres à l'éclipse de soleil. Alors si vous avez manqué les émissions d'hier et d'avant-hier, vous avez manqué quelque chose parce qu'il y avait beaucoup de renseignements sur l'éclipse. Alors aujourd'hui on va parler donc de la fusée Ariane 5 et notamment la conquête de Mars. Et pour parler de ça, je reçois ce soir monsieur Philippe Lounionnier de l'Institut Physique du Globe de Paris. Bonsoir.
Bonsoir.
Je reçois monsieur Jean-Marie Delbos de l'Aérospatiale des Mureaux. Bonsoir.
Bonsoir.
Je reçois monsieur Jean Hinman de l'Observatoire de Paris. Bonsoir.
Bonsoir.
Je reçois monsieur Dominique Le Sieur de l'Association Française d'Astronomie. Bonsoir.
Bonsoir.
Et monsieur Joël Minois de la Société Astronomique de France.
Bonsoir.
Bonsoir. Alors, ce soir, donc, nous allons parler de la fusée Ariane 5 et puis de la conquête de Mars. Alors là, je vais me tourner vers monsieur Jean-Marie Delbos et je vous demandais tout d'abord au niveau de la fusée Ariane 5, qu'est-ce qui a poussé l'Europe à lancer le programme Ariane en 1973 ?
Il faut remonter donc dans ces années 70 pour comprendre la situation à l'époque. La France réussissait bien un programme de fusée Diamant, mais alors qu'on lançait avec Diamant 115 kilos en orbite, les Américains, dans le même temps, débarquaient sur la Lune. Ce qui montre la différence d'avancée technologique. L'Europe devait se grouper pour s'engager dans la capacité d'envoyer des satellites dans l'espace. Et la première tentative de l'Europe a été un échec, c'était le programme Europa, qui s'est soldé que par des échecs, et qui a entamé la confiance de l'Angleterre, de l'Allemagne, qui avait décidé de s'en remettre aux Américains pour lancer les satellites européens. Mmh. Ceci présentait un danger de dépendance important, car les Américains ne pouvaient bien sûr lancer que des satellites dans les conditions qu'ils définiraient eux-mêmes. Et la France a réussi à convaincre ses partenaires de lancer ce programme Ariane pour acquérir cette indépendance. C'est donc d'abord une volonté politique qui a conduit au programme Ariane.
D'accord. Donc il y a eu plusieurs lanceurs Ariane. Il y a eu Ariane 1, Ariane 2, 3, 4. Et puis là, on a eu le lanceur Ariane 4 est encore en fonctionnement. Et c'est d'ailleurs un lanceur très performant. Alors pourquoi avoir créé Ariane 5 ?
Oui, Ariane 4 est un lanceur performant. Il est aujourd'hui le lanceur le plus fiable pour le lancement de satellites civils dans le monde. Néanmoins, il faut regarder toujours vers l'avant et les générations et les besoins évoluent, les générations de satellites et les besoins évoluent, si bien que Ariane 5 est motivé par d'abord conserver la compétitivité dans le lancement de satellites civils et la concurrence promet d'être difficile dans les quelques années à venir. Il y aura plus de lanceurs que de satellites à lancer, et donc une concurrence sévère. Et donc les satellites aussi vont en grossissant, et puis il y a d'autres missions de vol interplanétaire qui se dessinent, et donc il fallait créer un lanceur aux capacités plus importantes, d'où le choix d'Ariane 5, un lanceur qui peut emmener des charges plus lourdes, pour moins cher, et avec une fiabilité demandée, compatible des vols habités.
Mmh. Alors, justement, comme on voit que le lanceur Ariane 5 est performant, alors pourquoi, du coup, continuer l'exploitation du lanceur Ariane 4 ?
On ne peut pas lancer instantanément un programme de fusée à la cadence commerciale actuellement réalisée par Ariane 4. Ça demande une certaine progression dans la mise en place des outils industriels. Et donc, dès le départ, il a été prévu une période de biseau pendant laquelle Ariane 5 monterait en cadence, après avoir démontré et défini comme il convient sa conception, vérifié qu'il fonctionne. C'est la période que nous vivons actuellement.
Mmh. D'accord. Alors, là, on parle du lanceur Ariane 5. Et quel est son genre de fonctionnement ? Enfin, concrètement, ça fonctionne comment, un lanceur ?
Un lanceur, c'est fait pour transporter une charge utile, un passager, à un certain endroit dans l'espace, avec une certaine vitesse, et cette vitesse orientée d'une certaine façon. Voilà le contrat qui est passé, qui est demandé au lanceur. Et donc, en partant de la Terre, il faut atteindre cet objectif. Alors, on l'obtient d'abord en créant une poussée, c'est-à-dire en mettant l'objet au bout d'un lanceur qui est capable de donner cette accélération et de l'arracher de l'attraction terrestre. Donc ce sont des moteurs fusées qui fournissent cet accroissement compatible du besoin. Il faut aussi pouvoir... au fur et à mesure que les moteurs consomment leurs ergols, ce qui contient ces ergols et ces moteurs deviennent des charges inutiles. Donc le lanceur est composé de plusieurs étages. Au fur et à mesure que chaque étage a fonctionné, on largue la partie inutile pour repartir avec un étage, l'étage suivant.
D'accord. C'est pour ça donc qu'on a justement la fusée qui des morceaux qui se détachent et qui retombent.
Voilà. On n'a pas encore réussi l'exploit de partir avec le même véhicule. Et il y a des travaux en cours pour faire diminuer le coût de ce transport spatial. Et donc, c'est des projets qui sont menés pour économiser, voire atteindre des lanceurs réutilisables.
À suivre, donc. Et alors, vous parliez justement de cette montée en puissance de la fusée Ariane 5. Alors, quelles vont être ses prochaines missions ?
Ariane 5 est en... le développement d'Ariane 5 est fini. La qualification est en cours de prononciation. Et donc démarre la phase d'exploitation. Elle démarre un peu difficilement, pas de la faute d'Ariane 5, mais Ariane 5 est actuellement en attente au sol de ses premiers satellites. L'un d'entre eux est indisponible pour un problème de collage de cellules sur les panneaux solaires. Oh. Cet incident concerne aussi un satellite d'Ariane 4, si bien que nos deux lanceurs actuellement sont cloués au sol, indépendamment
du
lanceur. Voilà, mais de nombreuses missions vont se poursuivre jusqu'à la montée en cadence d'Ariane 5.
D'accord. Alors là, je laisse quelques minutes le lanceur Ariane 5 de côté, on va y revenir. Hein. Mais j'ai entendu parler aussi de la capsule ARD. Alors qu'est-ce que la capsule ARD ?
La capsule ARD est un démonstrateur. C'est une capsule du type des capsules Apollo et qui a été lancée avec succès sur le deuxième tir Ariane 5 permet de montrer que l'Europe spatiale est capable d'assurer l'ensemble d'un vol spatial avec récupération. La capsule est montée à 830 km. Elle a été récupérée à 4 km de son point prévu. Et elle a traversé la phase critique et la rentrée dans l'atmosphère. Le bouclier thermique et les protections thermiques ont pleinement joué leur rôle. Elles ont été portées à 2000 degrés Celsius, alors que l'intérieur de la cabine est resté aux environs de 40 degrés Celsius. Alors ça, c'est important, je crois, pour l'Europe. Parce que ça ouvre la voie aussi à la capacité d'envoyer des objets dans des atmosphères d'autres planètes.
Ça pourrait aussi servir de véhicule de secours au cas où les astronautes sont obligés de quitter le lanceur.
Absolument. L'ARD est en fait une démonstration technologique. Et derrière, l'acquisition de cette technologie, ainsi démontrée, on peut envisager plusieurs types d'utilisation, plusieurs missions.
D'accord, ben, je vous remercie. On va continuer encore quelques minutes sur le lanceur Ariane 5, s'il y en a qui veulent rajouter quelque chose. Oui, monsieur Lognonnet.
Oui, parce que Ariane 5 et du moins Ariane et Ariane 5 sont aussi des éléments majeurs pour l'exploration spatiale en fait de l'univers et du système solaire. Bon, c'est aussi des enjeux. Il va y avoir dans les années qui viennent un certain nombre de missions. Il va y avoir un satellite qui va observer des rayons X, je crois bien, lancé par l'Agence spatiale européenne, qui va être lancé sur Ariane 5 dans quelques années. Vers 2003, va y avoir une mission très très ambitieuse de l'Agence spatiale européenne qui va utiliser Ariane 5 également pour aller observer une comète. Et là, ça va être une mission qui va aller faire un rendez-vous avec une comète au-delà de Jupiter, se mettre en orbite autour de la comète et ensuite suivre cette comète pendant sa petite course jusqu'à la distance, disons, à peu près de Mars. Et là encore, aujourd'hui, disons, des missions, par exemple, pour cette mission qui s'appelle le Rosetta, des missions comme ça ne peuvent pas être lancées par Ariane 4. Elles nécessitent un lancement du type Ariane 5. Il y a d'autres possibilités, en fait, avec des lanceurs très, très puissants russes ou américains qui sont très chers également. Mais disons que là, ça, pour la première fois, disons, l'Europe est capable de conduire une mission dans l'espace profond. Et ça, c'est quelque chose qui est scientifiquement neuf. Et juste un dernier point, il y a aussi une autre chose qui est très importante pour Ariane, également très important pour Ariane, également pour les scientifiques, c'est le fait que, assez souvent, dans un lancement Ariane, vous avez un passager qui paye la quasi-totalité, en fait, du coût du lancement. C'est un passager commercial, hein, qu'on appelle un passager principal. Et à côté, en fait, il y a la possibilité d'avoir des passagers secondaires qui ne paient que très très peu, en fait. C'est presque un coût symbolique, c'est-à-dire on a la possibilité d'entourer le satellite principal de tout petits satellites. Quelquefois, en fait, c'est des petits satellites, par exemple, qui sont faits par des amateurs. Il y a eu des satellites de radio-télécommunication, du moins de radio à moteur, qui ont été lancés avec Ariane 4 sur des coûts vraiment très très faibles. Il y a même des satellites, en fait, qui sont faits par des universités qui peuvent être lancés. Donc, disons que à côté, en fait, de la grande puissance d'Ariane 4 et d'Ariane 5, il y a ces petits lancements, en fait, compagnons. Dans un futur très proche, vont être de plus en plus, utilisés. En particulier, vers 2001, va y avoir une mission, en fait, française qui va observer le Soleil, hein, qui s'appelle Picard, si je me rappelle bien, et qui rejoint un petit peu, d'ailleurs, les émissions précédentes sur l'éclipse.
D'accord. Juste avant de passer à la pause musicale, je vois M. Hennemann qui voulait intervenir.
Ah oui, alors c'est pour l'utilisation d'Ariane 5, mais à longue échelle de temps. Bon, c'est très simple. Les radioastronomes, en particulier ceux qui voudraient détecter des signaux artificiels extraterrestres, sont de plus en plus parasités, gênés par les émissions radio faites par les humains, et en particulier par les satellites qui envoient des ondes vers le sol, vers les portables. Donc elles tombent dans nos radiotélescopes et on n'entend plus rien. Donc au niveau international, j'ai un projet qui consisterait à réserver une zone spéciale derrière la Lune, sur la face cachée de la Lune, où aucun rayon radio humain ne peut pénétrer, pour y installer, mais dans 10, 20 ou 30 ans, selon les finances, un futur radio-observatoire. Et on peut envisager que dans la coiffe d'Ariane, on pourrait emmener des éléments de radiotélescope qui seraient largués dans le cratère Sahara, là-bas, pour la future génération de radioastronomes.
Un peu comme si on déplaçait le radiotélescope de Lancet sur la Lune, quoi.
Ah
en fait.
Oui, mais il serait trop lourd celui-là encore, pour l'instant.
Très bien. On va faire une pause musicale et puis on va se retrouver juste après pour parler de la conquête de Mars. Voilà, donc à l'instant, Allez, on part. C'est une chanson que vous ne trouverez pas dans les bacs, puisque c'est une école, en fait, de Mantes-la-Jolie, avec des élèves qui sont venus ici dans les studios la chanter. Ça s'appelle Allez, on part, et je crois qu'on peut les applaudir. On va continuer donc toujours avec cette émission Voyage à travers les étoiles. Donc on a parlé juste avant cette pause musicale de la fusée Ariane 5. Et on va parler maintenant de la conquête de Mars. Alors je ne sais pas qui veut répondre. Qu'est-ce qui va se passer concrètement sur Mars? Parce que c'est quand même une planète qui intéresse beaucoup de monde et qui paraît est un peu une jumelle de la Terre. Monsieur Le Nienné.
Oui, alors bon, d'abord il faut... D'abord, pourquoi Mars? Ça, c'est la première question, parce qu'on ne va jamais faire, disons, on peut bien sûr faire de l'exploration pour le plaisir, mais en termes d'exploration scientifique, il faut qu'il y ait une justification. Donc, en fait, hein, ce qui est formidable avec Mars, c'est que c'est une planète qui s'est créée en même temps que la Terre, il y a 4,5 milliards d'années à peu près, et qui a suivi une évolution radicalement différente, hein, avec néanmoins une jeunesse qui était assez proche. C'est-à-dire qu'on pense et on est quasiment certain aujourd'hui que au début de la vie de Mars, c'est-à-dire pendant 4 à 500 millions d'années, il y avait de l'eau, il y avait de l'eau liquide, il était vraisemblable en fait qu'il y avait de la pluie. La planète vivait un petit peu comme la Terre, c'est-à-dire qu'elle avait un champ magnétique, comme la Terre a aujourd'hui un champ magnétique. Elle avait une atmosphère relativement dense, la Terre aussi a une atmosphère dense. Et tout d'un coup, ce qui s'est passé, c'est que, disons, la planète a cessé d'offrir un environnement agréable et est devenue progressivement un désert. Le champ magnétique est mort, l'eau a disparu à l'état liquide. La surface a commencé à être irradiée par le rayonnement solaire et est devenue complètement stérile. Et aujourd'hui, en fait, on a une planète qui est morte, quasiment morte d'un point de vue géologique. Et vraiment, la chose qui est intéressante, c'est pourquoi deux planètes qui débutent leur vie au même moment sont capables, en fait, au bout de 4,5 milliards d'années, d'arriver à des situations aussi différentes, avec une différence fondamentale. C'est que nous sommes dans ce studio pour se poser la question et que malheureusement, nous n'avons aucun collègue sur Mars qui font la même chose. Donc, la question est là, c'est pourquoi deux planètes peuvent prendre des routes si différentes avec à la fin cette différence fondamentale que sur l'une il y a la vie et sur d'autres il n'y en a pas.
Oui, monsieur Le Sieur.
Je crois que dans les motivations, il est intéressant de signaler aussi que périodiquement, historiquement, il est toujours la question d'une certaine forme de vie sur Mars s'est toujours plus ou moins posée, tout au moins évidemment pas à l'état d'une vie actuelle, mais disons d'une vie fossile. Alors, la dernière en date, ça a été donc cette découverte de quelque chose qui ressemblerait peut-être à des organismes extrêmement simples, unicellulaires, du type bactéries, dans des échantillons de roches dont on suppose qu'elles proviendraient de la planète Mars. C'est-à-dire que ce sont des météorites qui sont tombées sur la Terre et on suppose qu'elles proviennent de la planète Mars. Alors, ça a joué un certain rôle dans le fait qu'actuellement, on assiste à cette recrudescence de missions en direction de la planète Mars, tout simplement parce que ça a permis d'obtenir des crédits qui autrement peut-être auraient traîné un peu plus.
Mmh. Je vois monsieur Lognonnet qui voulait intervenir.
Oui, non, il est vrai que le problème de la vie sur Mars et l'intérêt du public vis-à-vis du problème de la vie sur Mars est un élément moteur dans le programme d'exploration de Mars. Cela dit, vis-à-vis de cette découverte en fait de traces de vie, ce qu'il faut reconnaître aujourd'hui, c'est que la majorité en fait des scientifiques qui ont travaillé sur ces météorites contredisent l'hypothèse qui avait été émise il y a un an et demi par des chercheurs américains. Disons que c'était a priori une idée intéressante, mais qui a été publiée beaucoup trop rapidement, et depuis on s'est aperçu que beaucoup des éléments en fait étaient vraisemblablement faux. Donc je pense qu'il est raisonnable de dire aujourd'hui que la majorité des scientifiques ne croient pas que des traces de vie fossile se trouvent sur cette météorite. Et ça, c'est quelque chose qui est important et c'est un fait, en fait.
Monsieur Le Sieur ?
Tout à fait d'accord. Ce que je veux dire, c'est que la motivation, évidemment, vient de ce que, malgré tout, même si sur cette météorite, et je suis d'accord que tout le monde pense plus ou moins qu'en fait il s'agit de traces purement minérales, mais il n'empêche que la motivation est quand même partie un petit peu de cette découverte à l'origine, et que ça a permis certainement de drainer certains flux d'argent qui autrement auraient peut-être été drainés moins rapidement qu'ils ne l'ont été. Enfin, toujours est-il, de toute façon, ça n'enlève rien au fait que potentiellement on pense malgré tout que des formes de vie restent à découvrir éventuellement sur Mars, et c'est vrai que c'est quand même une des grandes motivations de son exploration aussi.
Monsieur Jeunemann.
Oui, en fait c'est un coup monté par la NASA pour obtenir des crédits. Ils sont lancés trop rapidement pour attirer à eux l'histoire de la découverte éventuelle de vie sur Mars, mais c'était en cours depuis beaucoup d'années, et surtout de la part des soviétiques. Il y avait des études qui avaient été faites sur certaines météorites venant de Mars, ça c'est sûr qu'elles viennent de Mars, où ils ont mesuré les isotopes du carbone 12, 13, etc. Et les rapports d'isotopes sont tels qu'ils ont dû être produits par des activités bactériennes à la surface de Mars dans le temps. Donc il y a tout un contexte qui est là, et c'est sûr que malgré cette annonce un peu malheureuse, qu'on essaie d'éviter en science pure, l'intérêt de la recherche de la vie sur Mars est parti, et Ariane 5 va contribuer à ça, fort heureusement.
Monsieur Le Sieur ?
Je crois qu'il est important de rappeler aussi qu'il y a tout un programme d'exploration de Mars qui se trouve devant nous pour le futur, mais que ce programme y a déjà démarré depuis pas mal de temps, et que la planète Mars a déjà été visitée à maintes reprises par des sondes automatiques qui s'y sont posées ou qui l'ont cartographiée à partir d'orbites plus ou moins proches ou plus ou moins lointaines. Et je crois qu'il est important de rappeler qu'actuellement, une mission en cours qui s'appelle Mars Global Surveyor est une mission extrêmement intéressante qui commence maintenant à fournir une imagerie extraordinaire, que cette imagerie est à la portée de tout le monde, puisqu'on peut aller y chercher des images sur le site internet de Mars Global Surveyor, et qu'on se régale actuellement, je dois dire, à voir les toutes dernières images qui en sortent avec des définitions sur le terrain qui sont de l'ordre du mètre. Mm-hmm. C'est vraiment extraordinaire.
C'est une très bonne résolution. Monsieur Jean Edman ?
Oui, mais alors, j'exagère là, mais ici, à côté de chez vous, à Mantes-la-Jolie, vous avez mon frère, à Vernon, qui travaille sur les moteurs de la fusée Ariane, et qui vient de créer une branche française de la société américaine qui s'est créée l'année dernière, qui s'appelle la Mars Society, qui est chargée de mobiliser les gens, les chercheurs, les industriels, pour pousser à l'exploration de Mars dans le futur. Donc, je regrette qu'ils ne soient pas là, mais il n'est pas loin.
Ah ben, si j'avais su, je l'aurais invité. Hein. Mais alors justement, je voudrais faire quand même réagir quelqu'un, je ne sais pas, peut-être Monsieur Le Nienet qui saurait répondre, parce qu'il y a quand même, on a lu dans une revue scientifique sérieuse, qui disait qu'il y a une personne qui a dit qu'il serait possible de rendre la planète Mars viable, soit selon deux possibilités, soit en déviant une comète et en la faisant s'écraser sur la planète Terre, mais aujourd'hui on ne connaît pas encore les moyens de le faire, ou en utilisant, et ça c'est déjà plus possible, des miroirs qui orienteraient la lumière du soleil sur les calottes glaciaires pour faire fondre les calottes glaciaires et à ce que l'eau recommence à couler sur la planète, ensuite de planter ce qu'on appelle un peu du plancton ou des petites et qui au fur et à mesure d'années retransformerait la planète Mars en une planète Terre jumelle, quoi.
Bon, ça c'est, il est clair que Mars intéressant le public, Mars intéresse également en fait les personnes qui veulent créer des scénarios de science-fiction, et un scénario en fait de science-fiction comme celui-là qu'on appelle du terraforming, c'est-à-dire transformer une planète à l'image de la Terre, est techniquement imaginable, mais maintenant au niveau de son coût de réalisation, je doute que, à moins qu'il y ait des problèmes sérieux sur Terre, il y ait une volonté de mettre à peu près 90% du produit national brut de la planète pour faire cette opération. Donc techniquement l'idée est assez simple finalement, l'idée est de créer un effet de serre sur la planète. À partir de ce moment-là, eh bien, ce qui va se passer, c'est que la planète va se réchauffer. Alors l'effet de serre est quelque chose qui est fondamental, hein, vis-à-vis de la température d'une planète. Le meilleur exemple, c'est la Terre et la Lune, qui sont toutes les deux situées à la même distance en fait du Soleil. L'une a une atmosphère qui lui crée un effet de serre, l'autre n'en a pas. Et la conséquence, c'est que sur Terre, en fait, on a une température relativement agréable. Donc on peut augmenter en fait l'effet de serre d'une planète pour contrer l'éloignement du Soleil. Donc ça, c'est, disons, techniquement imaginable. Je ne dis pas que c'est techniquement possible. Maintenant, en effet, ce qu'il faut faire, c'est envoyer des gaz à effet de serre dans cette atmosphère. Ces gaz à effet de serre, ils peuvent exister dans les sous-sols, ils peuvent exister dans les calottes polaires, en effet. Mais ce qu'il faut voir fondamentalement, c'est que là, on se place à une perspective très lointaine, où l'homme imagine avoir le droit en fait de bouleverser une planète. Parce qu'à partir du moment où on va en fait réchauffer Mars, ce qui va se passer, c'est que Il y a beaucoup d'eau en fait qui est gelée dans, dans les sous-sols. Tous ces sous-sols vont se liquéfier. La quasi-totalité de la surface va changer. Les pôles vont, du moins les calottes polaires vont disparaître. Et on va revenir un petit peu au problème, par exemple, de l'intérêt de faire des missions de retour d'échantillons comparées aujourd'hui, par exemple, à ces problèmes de météorites. C'est vrai qu'on sait qu'il y a des météorites qui viennent de Mars. On n'en est pas certain, on en est quasiment certain. Maintenant, ce que l'on sait également, c'est que ces météorites ont été contaminées par la Terre. Mmh. Et un jour ou l'autre, si on va en fait sur Mars, eh bien, on va également progressivement contaminer la planète. Alors, jusqu'où est-ce qu'on se donnera ?
On verra.
On verra.
Juste avant de conclure l'émission, je vois monsieur Hennemann qui voulait réagir.
Oui, bon, techniquement, on peut terraformer une planète. Bon, ça doit coûter cher, etc. Mais, par exemple, il y a des études qui ont été faites, il faudrait peut-être introduire des CFC, qui sont un poison pour la Terre, déjà. Alors, moi, je voudrais faire une remarque. L'homme est le seul animal doué d'intelligence qui ne sache pas utiliser son intelligence avec intelligence. Voilà, alors attention.
Bravo. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie. On arrive pratiquement au terme de cette troisième partie. Et je suis sûr qu'il y en a qui voulaient encore réagir. Ben, peut-être qu'on aura l'occasion de se revoir une autre fois pour parler encore de Mars. Merci donc à M. Philippe Lonuné, à M. Delbos, à M. Hennemann. Merci à M. Le Sieur et Minois donc, pour cette émission. Merci au public. Et puis on se donne rendez-vous demain pour la dernière, et oui déjà, la dernière de cette spéciale Voyage à travers la musique. On parlera de Sommes-nous seuls, avec entre autres M. Hennemann. Au revoir, à demain.